Bonsoir. Dans la province de la Tchopo, les organisations de la société civile ainsi que les médias réfléchissent depuis hier mercredi 19 avril à Kisangani sur le mécanisme de relance de la justice transitionnelle. Parmi les points évoqués figure la question des réparations et d'indemnisation des victimes des guerres et des graves violations des droits de l'homme en RDC. Pendant ce temps, les membres de l'association des victimes des guerres, notamment celle des 2000 à Kisangani, continuent de réclamer leur indemnisation et réparation des préjudices subis pendant les différentes guerres enregistrées dans cette province. Signalons qu'en début de cette année, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale avait annoncé une assistance de plus de $500,000 pour les victimes des atrocités de Kamwina-Sapu au Kasaï central. Le ministre Modeste Mutinga avait déclaré que les fonds étaient déjà disponibles. Que pensez-vous de l'initiative de la société civile de la Tchopo sur la question des réparations et d'indemnisation des victimes des guerres et des graves violations de droits de l'homme en RDC? Nous en parlons ce soir avec Joseph Kassa Mabika, avocat au barreau du Congo central. Il est conseiller en justice transitionnelle au sein du ministère des Droits humains. Joseph Kassa Mabika, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Dismas Kitenge, il est président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani. Il est vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH en sigle. Dismas Kitenge, bonsoir.
Bonsoir, madame Kelly Nkouté. Bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Aussi avec nous dans ce débat, Dominique Kambala, ancien bâtonnier du barreau du Kasaï central. Il est rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans la province du Kasaï central. Il est également directeur général de l'ONGD, dénommée Société congolaise pour l'état des droits. Dominique Kambala, bonsoir.
Écoutez, bonsoir. Je salue les confrères et je fais un coucou à Dismas.
À Kisangani, dans la province de la Tchopo, vous nous suivez sur la 94.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, dans la province de la Tchopo, les organisations de la société civile ainsi que les médias réfléchissent depuis hier, mercredi 19 avril, à Kisangani sur les mécanismes de relance de la justice transitionnelle. Parmi les points évoqués figure la question des réparations et d'indemnisation des victimes des guerres et des graves violations de droits de l'homme en RDC. Pendant ce temps, les membres de l'association des victimes des guerres multiplient des manifestations à Kisangani pour réclamer leur indemnisation et réparation des préjudices subis pendant les différentes guerres enregistrées dans cette province. Il s'agit notamment de la guerre des 6 jours qui avait opposé les armées ougandaises et rwandaises du 5 au 10 juin 2000. Le point avec Jacques Moukonkole et Guy Maté.
Bonsoir Jacques Moukonkole.
Bonsoir Guy Maté.
Et pourquoi les victimes des guerres de Kisangani continuent-elles à réclamer l'indemnisation alors qu'elles avaient déjà été servies à ce que je sache?
C'est vrai Guy que les victimes des guerres réunies au sein de l'association des victimes des guerres de Kisangani avaient reçu chacune un montant estimé à 300 000 francs congolais du gouvernement central. Dans un point de presse tenu le 7 septembre 2020 à Kisangani, l'ancien ministre de la Justice et des Droits Humains, André Dité, avait annoncé que le gouvernement avait autorisé le décaissement $1,500,000 américains à titre d'indemnisation provisoire lors d'une cérémonie solennelle organisée à la place des Martyrs le 21 janvier 2021. Le ministre André Dité avait remis à l'autorité provinciale une enveloppe afin de remettre à chacun des membres un montant équivalent à 300 000 francs congolais.
Il semble que le gouvernement avait aussi remis un autre montant en 2020 aux membres de l'association des victimes des guerres de Kisangani.
Oui, Guy Maté, c'était en novembre 2020. Le gouvernement avait remis $3,000 américains à chacun des 11 membres des représentants de l'association des victimes de guerre de Kisangani. Ceux-ci avaient passé 11 mois à Kinshasa pour réclamer leur indemnisation. Ils auraient également reçu des titres de voyage afin de regagner Kisangani.
Est-ce que toutes les victimes sont connues? Sont-elles identifiées?
Celles qui sont connues sont les membres de l'association des victimes de guerre, mais la majorité n'est pas identifiée. Toutefois, on pourrait dire que c'est quasiment tout le monde qui a été touché à Kisangani, notamment dans 4 communes sur les 6 qui comptent cette ville.
Cela pose alors le problème d'indemnisation. Qui indemniser et que faire pour la réparation dans ces conditions?
C'est la raison pour laquelle dans l'atelier que la coalition congolaise pour la justice transitionnelle a organisé hier à Kisangani avec les médias et la société civile, les participants ont suggéré qu'au lieu de l'indemnisation fiduciaire et individuelle, que l'on pense plutôt à des réparations collectives, matérielles et même symboliques, afin que tout le monde se retrouve et que la mémoire collective puisse être pérennisée.
Merci Jacques Mkonkole.
Merci Guy.
Joseph Kassa Mabika, je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Congo central. Vous êtes conseiller en justice transitionnelle au sein du ministère de droits humains. Vous l'avez suivi dans la province de la Tchopo. Les organisations de la société civile ainsi que les médias réfléchissent depuis hier mercredi sur les mécanismes des relances de la justice transitionnelle. Et parmi les points évoqués figure la question des réparations et d'indemnisation des victimes des guerres et des graves violation de droits de l'homme en RDC. Où est-ce qu'on en est avec ce dossier, Joseph Kassa? Et cette question se pose aussi pour les victimes de Kamwela Sapo dans le Kassai.
Merci infiniment pour la parole. Je salue tous vos auditeurs et mes co-débatteurs. Vous savez, nous sommes venus au sein du ministère des droits humains avec son Excellence Albert Fabrice Puella et nous avons hérité de ces dossiers, surtout celui de Kisangani et aussi d'autres dossiers de Kamwela Sapo. Et vous savez, nous avons toute une cartographie parce que pratiquement chaque province du Congo a été affectée d'une manière ou d'une autre par des graves violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Et vous savez, parmi les obligations que nous avons, nous devons mettre en place les mécanismes de justice transitionnelle. Et le dossier de Kisangani particulièrement nous tient beaucoup à cœur parce qu'il y a des représentants qui sont sur place, des victimes. Victimes avec qui nous travaillons, avec qui nous avons vu les différentes autorités de la place. Je crois que l'un de vos de précédents journalistes a essayé d'énoncer un peu ce qui s'est passé. L'ancien ministre a essayé de faire quelque chose, mais je crois qu'il y a des contentieux qui sont restés irrésolus jusqu'à aujourd'hui. Et nous étions en train de travailler durement pour que les listes puissent d'abord être claires, parce que nous avons pratiquement des associations qui se disputent les leadership au niveau de Kisangani et qu'il fallait nécessairement qu'on identifie les vraies victimes.
Avez-vous déjà identifié les vraies victimes?
On est en train de le faire parce que la première chose qu'on est convenu de faire, c'était d'abord une consultation nationale. On s'était dit qu'il fallait nécessairement consulter les populations de Tchopo. Et nous avons pratiquement toutes les données aujourd'hui des desiderata des populations. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je crois qu'au temps opportun, nous pourrions être capables de publier les résultats. Nous avons fait des consultations populaires auprès des victimes avec le bureau conjoint des Nations Unies. Nous, actuellement, nous avons ces données et l'étape suivante, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons avoir des listes fiables. Parce que qui s'est posé, vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont porté le ministère au niveau des cours et tribunaux, qui ont été en justice parce qu'ils se sont sentis lésés. Et on parle d'un montant de 300 000 francs. C'est sur base de quel barème on a pu pratiquement indemniser les victimes sur base de ces montants-là. Voyez-vous, donc, il y a eu plusieurs contentieux et qu'il ne fallait pas réparer dans la pure précipitation. Ce qui a fait que on est allé sur ces volets-là. D'abord, il y a les volets consultation nationale pour savoir quel est le vrai desiderata de ces victimes. Et de deux, il y a le Fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles et d'autres crimes graves qui va voir le jour incessamment et qui va aussi, en dehors de Frivao, où il y a déjà des animateurs qui ont été nommés, où en principe la présidence de la République doit nécessairement prendre peut-être une ordonnance pour mettre en place l'équipe qui va nécessairement traiter de ces dossiers. Il y a le Fonds de réparation qui va voir le jour. C'est un établissement public en faveur des victimes de violences sexuelles et de graves violations des droits de l'homme qui va voir le jour et qui va nécessairement s'occuper aussi de ces dossiers-là, qui sera constitué d'experts et non pas des amateurs qui essayent de venir peut-être résoudre un problème dans une question aussi sensible et épineuse qu'est la question des victimes et graves violations des droits de l'homme.
Est-ce que vous avez expliqué tout cela aux victimes, Joseph Kessa?
Ici, sur place, nous avons des représentants des victimes et qui sont en relais avec Kisangani. Et d'ailleurs, nous étions en train d'attendre ce qu'il y ait ces remaniements pour que son Excellence descende sur place et tienne une conférence de presse pour voir toutes les avancées déjà faites. Parce que vous savez, les victimes ont attendu pendant longtemps et c'est leur droit le plus élémentaire que de réclamer leur dû. Mais vous comprendrez que on ne va pas indemniser dans la pure précipitation. Il faut le faire en respectant les règles d'art. C'est une question extrêmement sensible où il faut nécessairement que les experts s'y penchent et indemnisent suivant le désiderata des victimes.
Dans mais ça la peut prendre combien de temps?
Non, en principe, parce que d'abord, le fonds de réparation va nécessairement commencer. Peut-être d'ici un ou deux mois, le fonds de réparation va commencer. Mais Frivao est déjà très avancé, parce qu'on a même déjà, dans leur structure interne, les animateurs sont déjà connus. Et donc, je crois que le ministère de la Justice, le ministère des Droits Humains et la Présidence de la République doivent pratiquement mettre les bouchons doubles pour que, incessamment, les animateurs descendent sur place et prennent à bras le corps ces problèmes.
Les fonds vont provenir d'où?
Mais Frivao a déjà des fonds, vous savez.
Oui, ça provient d'où?
Mais il y a un arrêt qui a été rendu en faveur de la République démocratique du Congo et des fonds ont été payés qui sont en stand-by en attendant que les règles puissent être définies et les vraies victimes. Donc il faut nécessairement qu'on y voit clair pour savoir qui est victime et qui ne l'est pas et comment il faut procéder. Il y a déjà des listes Caritas, je crois, qui a déjà fait un travail et plusieurs ONG de la place. Et donc il faut nécessairement qu'il y ait une certaine table ronde pour voir comment il faut qu'on ait un consensus pour voir dans quelle mesure il faut aller aux réparations individuelles, parce que ce n'est pas dans un bureau climatisé à Kinshasa où vous allez décider d'aller réparer individuellement ou collectivement. Non, il faut que cela sorte, revienne des victimes elles-mêmes. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on peut vous dire qu'on a consulté dans la Tchopo. Donc le ministère a préféré d'abord commencer par consulter les victimes dans la Tchopo et nous avons actuellement les données qualitatives et quantitatives. Et c'est en fonction de ça que les animateurs qui vont demain voir dans quelle mesure compenser ou payer ou réparer les victimes, ils vont tenir compte de cette mine d'or, de la volonté des victimes. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est des réparations symboliques, collectives, individuelles. Nous avons pratiquement toutes ces données qu'on va partager. Parce que le ministre va tenir une conférence, et une table ronde avec toute la société civile et les autres composantes au niveau de Kisangani et trouver un compromis une fois pour toutes pour voir quelle est la meilleure solution pour les victimes au niveau de Kisangani.
Alors là, c'est concernant la province de la Tchopo. Et qu'en est-il de l'espace Kasaï? Parce que là aussi, il y a les victimes de Kamwena Sampou qui réclament réparation et indemnisation.
Exactement. Vous savez, le fonds qui a été créé, il y a une commission, je crois que il y a le ministère des Droits Humains et la présidence de la République avaient organisé une table ronde qui avait même été soutenue par la première dame qui est championne, qui lutte contre les violences sexuelles. Il y avait une table ronde où on a fait venir plusieurs membres de la société civile, entre autres la société civile de Kasaï était venue. Et dans cette table ronde, Il était question de créer une commission ad hoc qui a travaillé pendant 12 mois et qui a mis en place, il y avait les membres de la société civile, c'est-à-dire les associations de victimes, les associations d'aide aux victimes, les membres de la primature, les membres de la présidence, du ministère des droits humains, de la justice et affaires sociales, genre et famille. Il y avait une commission ad hoc qui avait été créée, qui a travaillé pendant 12 mois et a mis en place dans le cadre des piliers réparation de la justice transitionnelle un premier décret qui a été signé par le premier ministre, signé par le ministre des droits humains, contresigné par le premier ministre. Ce décret crée le fonds AREV. Le fonds d'arrêt, c'était un établissement public dédié aux victimes. Et donc, les victimes de Kamwena Sampou vont bénéficier des retombées de ce fonds-là qui va commencer d'ici peu. Parce que le
d'ici
fonds,
peu, c'est quoi? C'est quand même assez vague.
En tout cas, c'est vague, c'est trop dire, mais ce qui est vrai, c'est que le travail de la commission est terminé. Et en principe, c'était à partir du mois de mars que le président de la République devait prendre une ordonnance pour formaliser clairement le fonds et nommer les animateurs. Donc si c'était passé au mois de mars, probablement d'ici le mois prochain, je crois que des actes juridiques vont déjà être posés parce que le fonds Fonarev a déjà toute une loi. Il y a une loi que la commission ad hoc a fait passer, qui a été votée au niveau du Parlement et c'était même promulgué par les chefs de l'État. Aujourd'hui, nul n'est censé l'ignorer parce que ça fait partie maintenant de notre arsenal juridique. Une loi qui fixe les modalités de réparation des victimes en RDC. C'est
et donc d'ici le mois prochain, les victimes de Kamwina Sapu seront servies.
Donc je disais ceci, les victimes de Kamwina Sapu font partie des nombreuses victimes de la République démocratique du Congo suite aux graves violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Et donc si le fonds est là, les animateurs de ce fonds pourront programmer pour dire, peut-être que parce qu'on a déjà fait même à ce stade les consultations nationales, ils ont cette mine d'or, ils savent avec précision qu'est-ce que ces victimes attendent.
Et
avec ces données, ils pourront dire peut-être que c'est la province du Kamwina, de la province du Kasaï, où ils pourront commencer, ou ils peuvent commencer par la province de la Tshopo, ils peuvent commencer par la province du Congo central.
Merci Joseph Kassa. On vous garde encore dans cette émission. Le temps de donner la parole à Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG de défense de droits de l'homme basée à Kisangani et vice-président honoraire de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH en sigle. Dismas Kitenge, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la société civile sur la question de réparation et d'indemnisation des victimes des guerres et des graves violations de droits de l'homme en RDC?
Merci beaucoup, Kelly Kouté. Donc nous sommes partie prenante à ce processus de réflexion au niveau de la société civile pour nous approprier tous ces mécanismes de justice transitionnelle. Comme vous le savez, c'est depuis plus de 20 ans que le groupe Lotus est en train d'encadrer les victimes des guerres ici à Kisangani et dans la province de la Tshopo. Donc cette initiative que nous menons tombe à point nommé. Pourquoi? Puisque nous avons constaté trois choses dans les chefs du gouvernement de la République. La première, c'est que le manque d'information sur le processus qui se passe au niveau des victimes d'abord et au niveau de la société civile en général. Sachez que pour donner un exemple, le processus qui a été entamé par le ministre de l'époque des droits humains au nom du gouvernement congolais, puisqu'il l'a pas fait en tant qu'individu, le ministre André Lité, mais c'était au niveau du gouvernement. Donc cette initiative n'est pas arrivée jusqu'au bout. Il n'y avait pas assez d'informations. Je vais revenir. Nous avons constaté le manque d'informations de la part des victimes de la société civile. Donc nous voulons nous approprier. C'est pour cela que les victimes et la société civile vont vers le gouvernement pour avoir plus d'informations, puisque ce qui se passe. Donc deux, c'est le manque de cohérence dans la politique du gouvernement, le manque de cohérence, le manque d'efficacité dans le mécanisme qui sont mis en place au niveau de ces processus de réparation ou d'indemnisation. Et troisièmement, c'est le manque de fonds, de disponibilité de fonds et les difficultés de mobilisation. Il y a beaucoup de faits d'annonces, mais la réalité, c'est qu'il y a encore un problème de fonds. Alors, les trois problèmes-là, je vais essayer de donner un peu plus d'exemples. Concernant l'information. Vous savez, il y a trois mécanismes qui se passent maintenant. Il y a le tout premier mécanisme qui a commencé en octobre, novembre et décembre 2020, par le ministre André Lité de l'époque, ministre des droits humains du gouvernement passé, où il avait été annoncé aux victimes, annoncé à la société civile, annoncé à tout le pays que le gouvernement de la RDC, pour les victimes de Kisangani, avait mobilisé $1,500,000 et qui devait être décaissé en trois tranches. Et l'unique tranche qui a été décaissée, c'était $545,000. Et le ministre était venu avec les $45,000 et il avait remis ça entre les mains des organisations et là, il y a eu implication de beaucoup de services de l'État. Voilà. Donc, quelques victimes avaient eu. Donc, ça, c'est un problème. Et c'est les victimes avaient été recensées. À l'époque, la liste qui a été présentée et validée par les victimes elles-mêmes, par le gouvernement, c'était pour les victimes de guerre de 6 jours, c'était plus de 3 500 victimes. Alors c'est en fonction de ces 3500 victimes que ces 545 000 dollars ont été répartis. Mais évidemment, il y a eu de mauvaises gestions puisque les officiels se sont introduits dans la cagnon pour la répartition. Il y a eu beaucoup de choses. Donc voilà, de mauvaises gestions, dont l'argent n'a pas été bien géré, aussi bien par les victimes et aussi par le gouvernement. Et pas donc le membre du gouvernement à plusieurs niveaux. Et après, depuis lors, la deuxième tranche, la troisième tranche, on n'en parle plus. Il n'y a plus d'informations là-dessus. Alors que dans le budget de l'année 2020, budget de la RDC, que cet argent avait été déjà décaissé. Donc les deux, la deuxième, troisième tranche ne sont jamais arrivées. Et les victimes ont eu l'impression d'être abandonnées. C'est pour cela que les victimes ont commencé à faire beaucoup de revendications, à faire des pressions au gouvernement. Et jusqu'à présent, même celles qui sont parties dernièrement à Kinshasa, c'est pour réclamer d'abord ça. Que le 1 500 000 qui ont été décaissés, et qui ont été alloués pour à titre provisoire. Puisque le gouvernement avait dit, à titre provisoire, en attendant la réparation qui viendrait de l'Ouganda. Donc voilà, ça c'était à titre provisoire, les 1 500, il n'y a que 545 000 qui ont été décaissés. Les restes, on n'en parle plus.
On alors, sait plus on n'en parle plus, où est-ce est-il que passé. Ce n'est pas
les
parce
victimes,
que...
donc demandent des informations.
Dismas Kitenge, on n'en parle plus, est-ce que ce n'est pas parce que le gouvernement voudrait mettre un peu d'ordre dans ce dossier des victimes de Kisangani? Comme l'a dit Joseph Kassa, la liste devait être retravaillée. Est-ce que ce n'est pas ça qui a retardé un peu le processus?
Ce n'est pas seulement ça, Madame Kenikoute. Ce n'est pas seulement question des listes. Puisqu'on ne parle pas de détournement qui a été fait par les responsables locaux. On ne dit pas comment les services publics, l'ANR, s'est mêlé de cette affaire. Les membres du cabinet du gouverneur se sont mêlés de cette affaire. Les autorités à plusieurs niveaux, y compris les autorités de la justice, qui ont commencé. Donc les autorités à plusieurs niveaux ont fait la pression sur les victimes. La responsabilité n'est pas que la question de la liste. La liste existe. Les listes existent, ont été validées. Validées aussi bien par les victimes elles-mêmes que par le gouvernement. Mais c'est le problème de la répartition. Imaginez, Madame Kelly-Couté, on a dit 545 000 dollars. Qui devait être donné aux victimes. Les victimes qui ont été recensées, c'était 3500. Et chacune des victimes a eu au moins 150 dollars. Les victimes et le membre du gouvernement au niveau local et national se sont convenus que chaque victime aurait 165 dollars. 165 dollars, et il y a eu des pressions des autorités locales pour que les victimes, chaque victime, concède au profit des autorités 15 dollars. Et que les victimes restent avec 150 dollars. Les 15 dollars multipliés par 3500, c'est à environ 45 000 dollars qui ont été donnés comme service que le membre du gouvernement au niveau provincial, les services étatiques au niveau provincial ont reçu de la part des victimes. C'était même une exploitation des victimes et nous on avait dénoncé ça.
Et qu'est-ce ça, que vous, société de la civile, part du ministère. Qu'est-ce que vous, société civile, vous demandez aujourd'hui au gouvernement?
Nous, ce que nous demandons, un, que le gouvernement donne des vraies informations aux victimes, des vraies informations à la société civile. Deuxièmement, ce que nous demandons, c'est que le processus soit transparent et le processus soit participatif. Quand je dis transparent,
la société civile n'est pas associée.
Il faut impliquer les victimes, la société civile et même d'autres partenaires pour faire un cadre, pour mettre en place un cadre multipartite qui va gérer cette question-là des indemnités de réparation. Troisièmement, ce que nous demandons, que la vérité soit dite aussi sur la mobilisation des fonds.
Dominique Kiambala, vous êtes ancien bâtonnier du barreau du Kasaï central et rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans la province du Kasaï central. Vous êtes également directeur général de l'ONGD, dénommée Société congolaise pour l'État des droits. Le Kasaï central est aussi concerné par cette question des réparations et d'indemnisation des victimes des guerres et des graves violations de droits de l'homme en RDC avec ce qui s'est passé en 2017, hein, l'affaire Kamena Sapou, ces événements qui se sont déroulés entre 2016 et 2017. Qu'en est-il de la province du Kasaï central? Est-ce qu'il y a quand même un début des réparations et d'indemnisation des victimes de ces événements?
Kéline, merci beaucoup pour la question. Il me semble que la problématique de la réparation ou d'indemnisation des victimes des crimes graves est une problématique cruciale et fondamentale qui rentre dans le cadre de la responsabilité de l'État qui a failli à son obligation de protéger les populations civiles pendant la période du conflit armé. Cet État-là qui a failli à ses obligations doit absolument et nécessairement réparer, c'est-à-dire mettre en place un programme de réparation. Cette question, Kéline, touche également à la problématique de la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle, mais malheureusement, la loi cadre, il y a un vide juridique sur cette question-là. Donc, pour répondre directement à cette question, par rapport à la région du Kassai, je te le dis, je te le jure, la main droite sur mon cœur, en tout cas, les réparations comprises comme un programme administratif du gouvernement émergeant du budget, pour réparer, en tout cas, les victimes de l'espace Kassai continuent à attendre. Alors, je vais de suivre tout à l'heure la mise en place du fonds auquel les victimes du Kassai auraient participé à la mise en place. En tout cas, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Mais si, effectivement, ce que le représentant du ministre dit, que les victimes de la région du Kassai seront prises en charge par le fonds NAREV, le fonds d'indemnisation des victimes, mais en ce moment-là, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que il me semble que d'autres problèmes continueront à se poser par rapport à ce fonds. Notamment, on met aujourd'hui en place un fonds d'indemnisation des victimes, mais la République ne dispose pas d'une politique publique en matière de justice transitionnelle. Nous espérons qu'avec la session en cours, conformément à au discours du président de la République lorsqu'il a participé au discours au dialogue interactif à Genève, que cette loi sera prise en compte et que désormais le Congo disposera d'une loi cadre en matière de justice transitionnelle. Ça c'est de un. De deux, le problème de ce fonds, il s'agit notamment du problème de l'identification des vraies victimes. Vous avez entendu ce que Dismas a dit. C'est une question cruciale parce que on risque de se trouver dans une situation de fausses victimes. Et que donc, il faut un décret consacrant des mesures d'application de la loi portant protection et réparation des victimes. Il faut absolument qu'un décret intervienne en vue d'appliquer les mécanismes, les dispositions de la loi qui a été promulguée l'année dernière. Et que la question d'identification, c'est une question extrêmement cruciale. Au-delà de la question d'identification des victimes, il y a aussi la question du fonctionnement effectif. Vous avez suivi le confrère qui vous dit qu'on attend la mise en place des animateurs, la désignation des animateurs. Mais on connaît dans ce pays comment ça fonctionne. Nous espérons qu'on va désigner de véritables technocrates. Parce qu'on vient de dire que le FONAREV a la nature juridique d'un établissement public. Or, nous connaissons comment il y a des combinaisons pour désigner les animateurs des établissements publics. Donc, nous espérons qu'il n'y aura pas la politisation lors de la désignation des animateurs de cet établissement public. Au-delà de cette question de la désignation des animateurs de cet établissement public, il y a la question sempiternelle de la mobilisation de recettes. D'où viendra? Ce qui est intéressant, c'est bien de créer des fonds, c'est bien de créer des structures, mais la mobilisation des recettes, c'est ça le plus grand problème dans ce pays. Au-delà de la question de la mobilisation de recettes, au-delà de la question des mesures d'application du fonds, de la loi, au-delà de la question d'identification des victimes, au-delà de la question du vide juridique en ce qui concerne la politique publique en matière de justice transitionnelle, une autre question se pose, c'est la question de la participation des victimes à toutes les étapes du processus. Il me semble que les victimes sont prises de court. Il y a une question de transparence, une question d'information et une question de la participation exclusive des victimes à toutes les étapes du processus.
Dominique Kambala, restez avec nous. On va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle. Ce sujet intéresse beaucoup les auditeurs des Radio Okapi. Alors on va se rendre à Kananga où vous êtes justement pour écouter cet auditeur qui nous appelle.
Maître Alidor Mampouya, avocat à partir de la ville de Kananga. Il est vrai que la justice transitionnelle est un nouveau concept dans notre pays, mais ce concept peine à être appliqué et loin de réparer le préjudice en rétablissant les victimes dans leurs droits, Elle permet cependant au bourreau et à d'autres personnalités ou autorités à s'enrichir au détriment des victimes qui ne bénéficient en réalité que de miettes. D'ailleurs, c'est le cas récemment des victimes des atrocités qui ont été commises dans la région du Kasaï. Ainsi donc, il faut que la RDC puisse se doter d'une loi garantissant la justice transitionnelle et définissant les modalités et clés de répartition des avantages qui sont accordés aux victimes. Car l'absence d'une loi dans notre pays est à la base de l'arbitraire et des détournements auxquels on est en train d'assister chaque fois qu'on alloue les dons ainsi que d'autres avantages aux victimes.
Cet auditeur vous rejoint dans votre analyse tout à l'heure, Dominique Kambala.
Exactement. Je viens de déplorer qu'il n'existe pas une politique publique en matière de justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Nous espérons. Le chef de l'État a pris un engagement devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève il y a quelques mois. Nous espérons que les députés, le Parlement de la République, parce que ces victimes, ce sont les futurs électeurs qui vont élire les députés et les sénateurs d'ici la fin de l'année. Et nous estimons que le meilleur cadeau que les parlementaires pourront donner à ces victimes, en tout cas pour ma part, c'est doter ce pays d'une politique publique de justice transitionnelle, c'est-à-dire la mise en place d'un cadre, de la loi cadre de justice transitionnelle. De deux, il y a la question qui vient d'être soulevée de ce que les victimes ont obtenu. Mais l'assistance qui a été donnée il y a quelques jours, c'est une assistance humanitaire qui n'a rien à voir avec un programme de réparation. Il faut distinguer les choses. Les victimes ont droit à une assistance humanitaire, mais l'assistance humanitaire est différente, totalement différente des réparations comprises dans le cadre de mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle.
Joseph Kassa Mabika, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Kisangani, héritier de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Héritier Wamenga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. L'initiative de ces forces sociales aux côtés de médias s'inscrit dans le cadre de la pression au gouvernement. Depuis qu'une somme importante a été versée par le gouvernement ougandais, rien ne se fait de la part du gouvernement qui, à son tour, multiplie les stratégies possibles afin de détourner l'objectif poursuivi par ces fonds d'indemnisation. Comment pouvons-nous comprendre que les autorités cherchent à créer un fonds social pour les victimes de la guerre des 6 jours avec, comme siège Kinshasa, pendant que les victimes se trouvent à Kisangani? Aussi, à l'heure actuelle, on ne sait plus identifier les vraies victimes car les animateurs de ce mouvement s'habillent à créer des faux victimes parmi leurs proches pour s'accaparer de cette somme. Connaissant la mentalité de l'homme congolais, je doute fort que cette somme d'argent soit bien logée au coffre du ministère des tutelles et s'il s'avérait que ce fonds serait là, le mien est de refaire l'identification pour assister les vraies victimes. Je vous rassure que les dégâts de cette guerre sont toujours repérables jusqu'à nos jours.
Joseph Kassa, brève réaction. Parlons un peu de l'argent versé par l'Ouganda pour la réparation des victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani.
Merci infiniment. De manière un peu plus rapide et ramassée, je voudrais essayer de répondre à mes co-débatteurs. En fait, la loi sur la justice transitionnelle est déjà en gestation. Je crois qu'il y a un comité scientifique qui avait été créé et qui a fait un travail de plus de 300 pages. Et parmi, dans les annexes de ce travail, il y a aussi la loi sur la justice transitionnelle. Si on ne sait pas, si le ministère des droits humains ne sait pas faire porter cette loi par un député aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en train d'attendre les résultats, les conclusions des consultations nationales qui doivent se passer sur toutes les provinces de la RDC. Nous avons déjà consulté 8 provinces et la semaine prochaine nous serons dans les Bazoulé. Ça sera la 9e province et si le budget de l'État venait à sortir, on pourra consulter toutes les autres provinces pratiquement dans les 30 ou 45 jours qui suivront. Et nous aurons les résultats de toutes les provinces. Ce n'est pas un recensement, mais c'est des lieux qu'on a échantillonnés dans chaque province. On travaille avec l'université de Kinshasa, la faculté de démographie, pour échantillonner et envoyer les enquêteurs qui sont les natifs de la place dans les différents territoires et localités. Alors, pour revenir à l'argent, c'est vrai, l'argent pose des sérieux problèmes surtout dans les Kassai et dans les
dans la Tchopo, le ministère des droits humains n'est pas en possession de cet argent, malheureusement, parce que c'était rendu, c'est de l'argent qui était issu d'un processus judiciaire. Cet argent est logé et géré par le ministère de la Justice. Et il y a un établissement public, on a créé une structure qu'on appelle Frivao, qui gère pratiquement cet argent, et je ne crois pas qu'on a même touché à un cent de cet argent. Je crois que il y a des représentants de Kisangani qui sont sur place ici et qui ont eu pas moins de 10 fois de réunions avec le ministère des droits humains, la présidence de la République, la primature et même la Banque centrale pour cette question, pour voir dans quelle mesure il faut nécessairement épurer ce qui reste. Donc le ministère de la Justice à la gestion de ces fonds qui se trouvent encore bloqués au niveau de la Banque nationale, et les ministres des droits humains et les ministres de la Justice veulent en principe tenir une table ronde au niveau de la Tchopo pour voir avec la société civile, avec les différents acteurs, quel est le meilleur des processus pour qu'on puisse pratiquement finir avec les restes, les soldes de cet argent qui était resté.
Donc, on vous reproche un peu, vous, du ministère, le manque d'information, manque de transparence dans la gestion de ce processus même. Comment vous y répondez très rapidement?
Ok. De toutes les façons, vous savez, la société civile est plurielle. Aujourd'hui, il y a des établissements qu'on a créés et qui ont manqué les mesures d'application. Le fonds d'arrêt a été créé comme étant un établissement public, les mesures d'application sont finies, et donc le problème c'est qu'on ne peut pas pratiquement divulguer toutes ces informations tant que cela n'est pas encore totalement fini. On voudrait que le président de la République, je crois qu'il va tenir compte de, parce que vous savez, on peut condamner, mais hier il n'y avait pas une loi sur les réparations. Aujourd'hui on a une loi sur les réparations. C'était hier la capitale du viol. Aujourd'hui, on peut avoir une loi et que peut-être le Congo deviendra la capitale des réparations. Voyez-vous, donc on a une loi aujourd'hui. Si on a une loi sur un des piliers de la justice sanctionnelle qui est les réparations, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas avoir une loi sur la justice sanctionnelle.
Merci.
Donc ça, soyez rassurés. Soyez rassurés que d'ici là, on va porter cette loi au niveau du Parlement parce qu'on doit y intégrer les desiderata des victimes, parce que dans la justice sanctionnelle, on tient compte des victimes. Ce qui s'est fait sans les victimes, s'est fait contre les victimes. Et on ne peut pas aller en rencontre de ces principes.
Dismas Kitenge, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient encore une fois de Kisangani.
Moi, c'est Henri Kassongomoulenda, j'interviens depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Les belles initiatives existent toujours, mais malheureusement, nous avons des autorités qui n'ont pas de bonne foi pour la mise en application de toutes les initiatives. Prenons le cas des victimes de Kisangani. Le gouvernement avait annoncé une assistance d'une somme de 1 549 000 $, dont jusqu'à ce jour, seulement 549 000 $ ont été remis aux victimes depuis 2021. Jusqu'à présent, les restes soit détournés, soit bloqués à Kinshasa. Moi, je pense que le gouvernement doit fournir un effort de respecter ses engagements pour ce qui est de la prise en charge des victimes.
Respect des engagements du gouvernement.
Oui, merci beaucoup. C'est ce que nous demandons au gouvernement de le faire. Et quand le gouvernement ne le fait pas, nous, en tant que société civile, et aux côtés des victimes que nous sommes en train d'encadrer, nous devons le rappeler au gouvernement. Nous devons aller vers le gouvernement, rappeler l'engagement du gouvernement aujourd'hui, de faire quelque chose pour les victimes, puisque c'est de son manque de responsabilité que nous avons eu cette guerre, différentes guerres. Et ce que nous devons faire, les victimes doivent s'exprimer, les victimes doivent se manifester. Il ne faut pas toujours attendre que le gouvernement fasse quelque chose. Il faut aller aussi vers le gouvernement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et quand nous allons avec les victimes vers le gouvernement, ce que nous voulons aussi, c'est d'avoir de vraies informations et d'avoir aussi pourquoi il n'y a pas eu la continuité, par exemple, de cet argent avait donné le gouvernement, qui ne constituait pas la réparation comme telle. Le gouvernement n'a même pas parlé de réparation, puisqu'il n'appartient pas au gouvernement de réparer les torts qu'il n'a pas commis. Le gouvernement a parlé de réhabilitation, fonds de réhabilitation provisoire. c'était un peu une assistance, un peu comme disait Maître Kambala, en faveur des victimes. C'est ce qu'il faut faire, il faut revendiquer, il faut s'exprimer sur le devoir de la société civile et créer un cadre de dialogue. Et ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une mise en place d'un cadre de dialogue entre le gouvernement, la société civile et les victimes sous cette question d'indemnisation. Alors, et ces cadres de dialogue-là doivent exister. Il ne faut pas seulement quand il y a un problème qu'on crée les cadres, mais il faut pérenniser ces cadres-là. Et comme on disait, la politique, qu'on arrive à la mise en place d'une véritable politique sur la justice transitionnelle, qui va au-delà du gouvernement, qui est une politique appropriée, mise en place par les institutions, et qui peuvent être aussi valorisées même par les responsables qui vont venir après ces responsables actuels. Puisque le problème aussi du Congo, c'est que quand il y a un ministre et un gouvernement qui prend des initiatives, le lendemain, il y a un autre gouvernement qui vient, il ne se souvient plus. Il n'y a pas une continuité dans la mise en œuvre des décisions qui sont prises. Voilà qu'il y a une rupture. Parfois, cette rupture crée une méfiance. Parfois, ça crée le désespoir. Je pense que le gouvernement, avec l'élan qu'il est en train de prendre, il faut qu'il maintienne cet élan-là et qu'il crée vraiment la confiance. Et créer la confiance, c'est créer aussi un cadre ouvert, un cadre transparent et de communication, de travail, aussi de gestion. Comme on disait, nous avons un défi.
En conclusion, Dismas,
puisque c'est le pilier qui semble privilégier le gouvernement, où on aura cet argent-là? Est-ce qu'il faut compter il faut compter en grande partie sur l'argent des Ougandais?
Il faut conclure, Dismas.
Il faut que l'argent du gouvernement congolais soit là aussi. Et que s'il est là, inscrit dans le budget, qu'on l'applique.
Merci, Dismas Kitenge. On va considérer cela comme votre conclusion. Maître Kambala, le gouvernement doit créer la confiance selon Dismas Kitenge. Votre réaction, ça sera aussi votre conclusion.
Comme on dit dans une des langues nationales, Sokimbo Kezana Matanga Bakombo Lakate. L'État qui a failli à son obligation de protéger et de sécuriser les citoyens doit absolument et impérativement mettre en place un programme de réparation. Il est de son devoir. Il faut distinguer l'assistance humanitaire, les tôles qu'on donne, les pagnes.
Vous l'avez répété plusieurs fois dans l'émission.
Oui.
Il faut conclure.
Donc, exactement. Donc la conclusion, c'est que par rapport au fond, il faut éviter de politiser la désignation des animateurs et les victimes ont droit à participer à toutes les étapes du processus et les victimes ont droit à une véritable réparation.
Merci Dominique Kambala, Joseph Kassa, Mabika. Vous avez suivi les uns et les autres. On insiste beaucoup sur la confiance, la transparence, la participation de tout le monde, un cadre de concertation qui devra être permanent et non organiser cela à chaque fois qu'il y a un problème.
Oui, merci infiniment. Je crois que le président de la République, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a des langues qui se sont déliées. Vous savez, il y a quelques années, ce genre de dialogue n'était pas possible. Voyez-vous, parce qu'il n'y avait pas de volonté politique pour qu'il y ait cette justice transitionnelle. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des petits pas qui sont en train de se faire, mais il faut que les Congolais comprennent qu'il y a quand même une volonté politique au niveau du sommet et que nous allons mettre en place, nous avons écouté la société civile, nous allons mettre en place tous ces dialogues permanents. C'est vrai, il est très important qu'il y ait ce dialogue permanent, transparent, et croyez-nous que parmi les recommandations que nous avons reçues pour Fonarev, la société civile avait demandé qu'on ne puisse pas politiser la nomination des cadres qui vont gérer les fonds. Et donc, je crois que jusqu'à ce stade, les fonds la commission ad hoc a fonctionné sans interférence politique. Et dans chaque étape, nous avons associé la société civile, le parlementaire et pratiquement toutes les composantes, les associations d'aide aux victimes. Nous avons travaillé avec, par exemple, la société civile, les membres de PANDI.
Merci.
Des PANDI qui ont travaillé même dans cette structure. Et donc, je crois que il faut que les Congolais aient confiance aux nouvelles autorités. C'est vrai qu'il y a continuité des services publics. Nous plaidons coupables pour avoir été complice ou co-auteur ou failli à nos obligations. Mais la suite est que l'État vient à réparer.
Merci.
Et c'est la raison pour laquelle on a créé ces fonds. Ces fonds, c'est un établissement public qui prouve la volonté politique des autorités
à réparer les
Merci,
torts
Joseph.
Que les victimes ont subi.
Merci Joseph Kiasa Mabika. Dialogue entre Congolais, c'est fini. Merci à Guy Maté et Donna Madimba qui ont concouru à la préparation de ce magazine. Jean-Claude Tiala est à la mise en onde, présentation et coordination. Kéline Kouté, bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.